La revue de presse internationale de Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour Julie.
Alors, la revue de presse, qu'est-ce qui agite aujourd'hui les journaux à travers la planète ce matin?
Un soupçon de sidération dans les médias nord-américains. D'abord après l'annonce par la Maison-Blanche que Donald Trump veut inviter à présent Vladimir Poutine à venir en visite officielle à Washington l'automne prochain. Voilà qui ressemble à une fuite en avant, nous dit en substance le New York Times après une semaine de polémiques très virulentes sur la manière dont Trump se serait couché littéralement lundi dernier à Helsinki face au président russe. Le Guardian à Londres évoque la réaction du républicain Dan Coats, directeur du renseignement national américain. Ce sont les journalistes qui lui ont appris que Trump avait lancé donc cette invitation à Poutine. Coats leur a fait répéter l'information avant de sourire. Est-ce que j'ai vraiment bien entendu ça? Ok, ça va être, disons, spécial cette rencontre, a-t-il commenté. Le problème soulevé entre autres par le Wall Street Journal, c'est qu'on ne sait déjà pas ce que se sont réellement dit Trump et Poutine au cours de leur entretien privé d'Helsinki. À part eux, il n'y avait qu'un seul témoin américain dans la salle, constate USA Today, en l'occurrence l'interprète officielle de la Maison-Blanche, Marina Gross. Elle se retrouve aujourd'hui au cœur de très nombreuses pressions politiques et médiatiques pour briser le sceau de la confidentialité. Témoigner devant une commission du Congrès, ce serait du jamais vu, dit dans USA Today un interprète qui a travaillé avec 7 précédents présidents américains. À quoi répond du tac au tac un élu démocrate pour qui tout ce que fait Trump depuis un an et demi aussi est sans précédent dans l'histoire américaine.
Pour résumer la confusion qui règne entre Washington et Moscou, l'hebdomadaire Time a trouvé une image particulièrement forte pour sa une cette semaine.
Sous le célèbre cadre rouge du Time Magazine, un morphing, un visage dans lequel sont mélangés les traits de Donald Trump et ceux de Vladimir Poutine. C'est très troublant la manière dont les deux se complètent, s'embellissent presque même, comme si Time voulait nous prouver que le monstre créé par la réunion des deux dirigeants est quelque chose de finalement très cohérent et aussi plutôt effrayant. Pas franchement plus rassurant le chemin sur lequel s'est engagé Israël ce jeudi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le grand quotidien israélien Haaretz qui revient longuement sur la loi fondamentale votée hier donc par la Knesset, loi qui définit Israël comme l'état-nation du peuple juif. Cette loi, elle inscrit la discrimination au cœur des bases constitutionnelles du pays, analyse l'éditorialiste Mordechai Kremnitzer. Non seulement elle ouvre la voie à de nouvelles annexions de territoires pour les colons juifs les plus radicaux, mais surtout elle entérine l'annexion de l'État par ces territoires. La loi sur l'État-nation permet l'établissement de communautés basées sur la religion, la nationalité ou sur d'autres caractéristiques. C'est une dérive dangereuse, selon Bradley Burston, toujours dans Haaretz. Pour lui, c'est un deuil national que traverse Israël depuis hier. Le pays que nous avons connu n'est plus. En apparence, rien n'a changé, mais le fond de l'air, lui, devient difficilement respirable. Un responsable à tout cela, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
L'Espagne s'interroge et n'en finit pas de s'interroger sur le sort à réserver à la dépouille de feu le dictateur Franco.
Oui, Franco enterré au cœur d'un impressionnant mausolée dans la vallée de Los Caídos qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Madrid. Et depuis son arrivée à la tête du gouvernement début juin, le socialiste Pedro Sanchez a fait jurer de faire exhumer le corps de Franco pour faire du mausolée un lieu de réconciliation nationale. Mais ce matin, El País fait un pas de côté et emmène ses lecteurs en Argentine. Là-bas, nous expliquons, on a réglé depuis longtemps le sort des dépouilles des anciens responsables de ce qui fut la dictature militaire la plus meurtrière d'Amérique du Sud entre 1976 et 1983. Les Videla, Massera, Viola ou Galtieri sont des noms qui ont aujourd'hui purement disparu des cimetières privés où ils reposent sous des dalles anonymes. Ils ne sont plus qu'un mauvais souvenir, sans lieu de mémoire pour leurs hypothétiques héritiers. Les tortionnaires d'hier subissent le même sort que leurs dizaines de milliers de victimes disparues. Un exemple peut-être pour une Espagne qui, elle, ne fait que relancer à présent son travail de mémoire sur le franquisme. On reste en Argentine pour clore cette revue de presse. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, Julie, quelle était la position de Mafalda sur l'avortement?
La petite Mafalda, la personnage de bande dessinée?
Exactement, l'héroïne du dessinateur Kino, et bien justement.
Mais elle est toute petite pour se poser ce genre de questions.
Et pourtant, il a fallu qu'elle prenne position donc par l'entremise de son dessinateur Kino qui intervient dans la presse argentine, dans le quotidien Perfil notamment. Le Sénat argentin doit se prononcer sur la légalisation de l'IVG le 8 août. Le Congrès argentin a déjà validé cette légalisation à la mi-juin. Et donc, Kino Tarantino remet les points sur les i. Il affirme que son personnage le plus célèbre, Mafalda, est favorable à la légalisation de l'avortement. Il a dû le faire, Kino, parce que les anti-IVG font circuler sur les réseaux sociaux des images où l'on voit la petite fille affubée du foulard bleu clair, le signe de ralliement des pro-life argentins. Je n'ai pas autorisé cette utilisation militante de Mafalda, clarifie donc le dessinateur. Je me suis toujours battu pour les droits humains et les droits des femmes en particulier. Je leur souhaite bonne chance dans leur combat actuel. Voilà qui est dit. Les Argentins n'ont plus qu'à prendre leur gomme et leur crayon pour colorier le foulard de Mafalda en vert. C'est la couleur des pro-IVG.
Merci beaucoup, Camille Magnard. Bonne journée.
Bonne journée.